Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mondial Sport, ravi de vous retrouver. L'émission de tous les exploits aux quatre coins du globe sur RFI, l'émission qui ne se cache pas ce samedi, puisque nous allons affronter des pavés, de la pluie, de la boue, du vent, des chutes, bref, l'enfer du Nord. Autant de clichés qui n'en sont pas tant que ça, même si je ne suis pas sûr qu'il pleuve demain du côté de Paris-Roubaix, car c'est de ça dont il s'agit depuis la fin du 19e siècle. Cette course est un monument qui ne bouge pas, ou alors très peu, une course mythique qui garde sa couronne, conserve son trône dans le monde du vélo, de la petite reine, donc c'est elle, la reine des classiques. Elle consacre les forçats de la route. Binyam Girmay va la découvrir, et même Pogacar, monsieur Tour de France, monsieur champion du monde, a souhaité s'y frotter cette année, au péril peut-être de ses ambitions et de sa réputation. C'est dire l'attrait qu'exerce Paris-Roubaix sur les amoureux du vélo et même au-delà. Demain, c'est le départ de son 122e chapitre, chez les hommes en tout cas, et aujourd'hui, Mondial Sport vous dévoile l'envers du Nord.
And here he goes, renaming Monument Mathieu.
Merci Mathieu Van Der Poel pour ce nouveau chef-d'œuvre.
And Pogacar now strikes.
Pogacar, il est à l'aise depuis l'entrée sur les secteurs pavés, il est impressionnant.
Mats Pedersen qui a donc le privilège d'entrer en tête dans la trouée d'Arambert.
L'attaque de Wout Van Aert. Et il est parti très fort Wout Van Aert sur un rythme incroyable.
Stephen Kung accelerates hard.
Nils Boligma qui ne peut rien faire face à la vitesse de Jasper Philipsen qui termine deuxième.
Une grande chute dans le peloton.
He's got a problem. He's got a rear wheel puncture.
Les pavés d'Arambert, ils sont épouvantables.
Just see the riders, all the grit and grime, the mud in the eyes.
Many, 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 please dance on me.
Une bande-annonce qui n'est pas celle d'un blockbuster hollywoodien, mais bien celle de Paris-Roubaix. Vous pouvez la visionner sur YouTube, le Paris-Roubaix 2025. Paris-Roubaix qui est né, après tout, on parle de cinéma, juste un an après une autre invention, le cinématographe des frères Lumière. Donc un premier lien entre cinéma et Paris-Roubaix. Paris-Roubaix est également né la même année que les Jeux Olympiques modernes, c'est-à-dire en 1896. Paris-Roubaix, monument du cyclisme, du sport et de la culture en général. Bonjour Cédric Leroy.
Bonjour.
Paris-Roubaix au fondement de la culture populaire moderne, au-delà même du sport, vous êtes d'accord. Et vous aussi, hors émission, vous nous avez tiré un trait d'union entre les blockbusters hollywoodiens et Paris-Roubaix. C'est un petit peu ça, Paris-Roubaix, un blockbuster des courses cyclistes.
On pourrait faire un film tous les ans avec ce qui se passe sur les secteurs pavés et sur les courses. Ouais, c'est assez incroyable au niveau de la course et les à côté aussi.
Vous êtes le rédacteur en chef du magazine Le Cycle, le magazine numéro 1 des pratiquants depuis 1975.
15. Donc, notre 50e anniversaire. Bougie, merci.
Votre magazine est un fringant quinca. C'est aussi un site internet. Et vous êtes aussi Cédric Leroy, en compagnie de Christian Batteux, l'auteur de Paris-Roubaix, la légende de l'enfer du Nord, chez Casa Éditions. C'est une mise à jour qu'on peut trouver cette année d'un ouvrage déjà paru un peu plus tôt, c'est ça ?
Alors c'est ça, c'était un hors-série, puisqu'on avait lancé deux hors-séries classiques. Le premier était consacré au championnat du monde, et puis Paris-Roubaix, c'est une course qui me tient à cœur, parce que j'étais enfant, jeune cycliste, et donc du côté de jouer les tours, et je me souviens avoir regardé la course de 1989 quand Marc Madio, et j'étais dans le salon de Jean-Pierre Danguillaume, voilà, avec son fils, puisqu'on courait ensemble. Donc Paris-Roubaix, j'ai un souvenir, donc j'ai voulu j'aime la course, ce qu'elle représente. Et quand j'ai pu la faire en vrai, en mode cyclo.
En mode amateur, quoi.
En mode amateur, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion et pouvoir parcourir jusqu'au vélodrome, parce que j'ai même eu la chance avec une marque de pouvoir entrer dans le vélodrome avec Tom Boonen, qui l'a quand même gagné 4 fois. On a fait le sprint ensemble. Il m'a laissé gagner. Hein, mais non, c'était, ouais, c'était une sacrée expérience.
Donc, spectateur, pratiquant de Paris-Roubaix et auteur désormais de Paris-Roubaix. C'est vraiment un très beau livre. Livre Paris-Roubaix, la légende de l'enfer du Nord, des histoires touchantes, des interviews précieuses et des photos impressionnante. J'invite vraiment nos auditrices et nos auditeurs à jeter un œil en direct avec nous. À vos côtés, Cédric Leroy, une autre plume de la Reine des Classiques. Pascal Sergent, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Alors, je dis à vos côtés, vous êtes plutôt à distance, puisque vous êtes sur le lieu du départ, la ville de Compiègne, d'où s'élancera le peloton des hommes pour Paris-Roubaix demain. Alors, vous êtes un auteur de nombreux livres sur Paris-Roubaix. Vous êtes vraiment une référence en la matière et vous êtes président des Amis de Paris-Roubaix. C'est quoi les Amis de Paris-Roubaix? Vous nous présentez?
Oui,
dites-moi.
Alors, les Amis de Paris-Roubaix, c'est une association qui a été créée en 1989, qui a pour but principal la réfection des pavés, donc naturellement en concordance avec ASO, l'organisateur de Paris-Roubaix. Et donc, nos bénévoles travaillent toute l'année sur les pavés pour la réfection des pavés, pour refaire des pavés qui sont un peu abîmés, refaire également parfois quand il y a des éboulements, des pavés qui se sont enfoncés à cause, entre autres, des tracteurs qui y passent, parce que c'est aussi le quotidien à Paris-Roubaix. Et donc, notre association travaille toute l'année pour justement avoir des pavés praticables sur Paris-Roubaix afin d'éviter au maximum les accidents. Alors, bien sûr, Paris-Roubaix, ça doit être une course difficile, mais ça ne doit pas non plus être un grand cyclocross. Donc, nous sommes très, très vigilants par rapport à tout ça pour justement cette réfection des pavés.
Donc, vous prenez soin des vraies vedettes, si je puis dire, de Paris-Roubaix, à savoir ces pavés qui font la légende de cette course. Pour compléter notre plateau, lui, il est bien à nos côtés, si je puis dire, en tout cas en studio, le leader de la Team Mondial Sport sur les routes, Pierre Carré. Bonjour Pierre.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
La Team Mondial Sport presque au complet. On aura d'autres surprises bientôt. Cédric Leroy, je reviens sur les Amis de Paris-Roubaix, puisque vous leur consacrez des pages dans votre livre La Légende de l'Enfer du Nord. Les Amis de Paris-Roubaix sont plus que des amis, sont des ingrédients indispensables à la mythologie de Paris-Roubaix parce qu'ils prennent soin des pavés.
Ah bah, je pense que sans eux, il n'y aurait pas de Paris-Roubaix parce que il faut faire vivre les secteurs pavés. Il faut quand même garder à l'esprit que chaque secteur pavé, c'est un chemin agricole où il y a des tracteurs et ils sont soumis à rude épreuve tout au long de l'année. Il y a juste un week-end où ils sont sous les feux des projecteurs, mais faut s'en occuper avec une mention particulière aussi au lycée qui font des réflexions, qui s'occupent. Il y a des associations qui vont mettre des moutons, des boucs pour tondre l'herbe qui pousse toute l'année. Donc c'est sans eux, on serait loin d'avoir un pavé aussi joli, entre guillemets, parce que...
Allez dire ça aux coureurs, qui sont jolis ces pavés, tellement ils sont redoutables. Ce sont eux, Pierre Carré, les vedettes. C'est... presque, comme on dit, une métonymie.
Oui, c'est l'âme.
Paris-Roubaix, c'est l'âme de la course. Elle est dans les pavés.
Elle est dans les pavés, c'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait sa réputation. Bon, en réalité, quand le cyclisme s'est créé, il se courait sur pavés parce que c'était le revêtement des routes de l'époque. Vous l'avez rappelé, les origines de Paris-Roubaix sont très anciennes. Et puis, disons qu'au fil du temps, on s'est rendu compte que ça signait une identité. Et dans les années 60-70, la course était profondément menacée parce qu'évidemment, les riverains ou les paysans demandaient que ces routes soient bitumées. Jusque dans les années 90, il fallait que les autorités locales se battent parfois parce que, par exemple, la ligne de TGV entre Paris et Bruxelles a fini par couper un secteur en deux. Eh oui. Donc, il faut quand même se dire que dans un premier temps, il a fallu sauver ces pavés. On parle beaucoup des pavés. C'est ce qui fait le Nord. Aujourd'hui, Paris-Roubaix a rendu une région très fière. Et c'est peut-être aussi pour ça que Paris-Roubaix est une course aussi puissante dans l'imaginaire. C'est que c'est une course qui dépasse la course. C'est une course qui arrive à rendre des lettres de noblesse et de fierté à une région qui était doublement meurtrie et décriée, à la fois bien sûr la Première Guerre mondiale qui a laissé beaucoup de cicatrices, et le premier enfer du Nord, c'est bien sûr celui des poilus et des tranchées avant d'être celui des coureurs, et bien sûr le déclin industriel. On sait notamment que Paris-Roubaix traverse le bassin minier. Et aujourd'hui, disons qu'on aime que les coureurs rejouent, de manière évidemment moins dangereuse, mais rejouent cet acte héroïque et dangereux de descendre au fond des mines. Ce sont en quelque sorte les mineurs contemporains et ils perpétuent cet héritage très fort du Nord.
Pascal Sergent, vous confirmez, vous le président des Amis de Paris-Roubaix et l'auteur de références sur le sujet. Paris-Roubaix, quelque part, c'est une course, j'ai l'impression, en lisant le livre de Cédric Leroy, qui a pour mission, et c'est aussi peut-être votre mission quand vous préservez les pavés, de rester quelque part en l'état. Une course qui doit toujours rester fidèle à ce qu'elle était au départ. Elle ne doit pas beaucoup bouger, Paris-Roubaix, dans un monde où forcément, sportif, où l'argent, il y a une certaine aseptisation, il y a un professionnalisme, mais il faut que Paris-Roubaix, ça reste un petit peu en l'état.
Oui, c'est la reine des classiques. Donc, à ce titre-là, elle se doit absolument de garder sa spécificité, comme ça a été évoqué très bien à l'instant. Paris-Roubaix a évolué, le parcours de Paris-Roubaix a évolué, parce que depuis 1896, la course partait de la Porte au Maillot pour arriver à Roubaix par les nationales, les routes nationales. Il y a eu, dans un premier temps, des soucis d'interdiction à cause de la circulation qui commençait à augmenter. Dans les années 20, il y a fallu rechercher tout doucement non plus des routes nationales, mais des départementales. Et il y a eu quelques grandes modifications sur le parcours. Déjà, au milieu des années 50, les pavés n'étaient plus les mêmes. Il fallait rechercher Jean Gardeau, qui était le responsable du parcours, qui travaillait au journal L'Équipe, organisateur de la course, avait dû trouver des pavés. Et la grande transformation, c'est en 1968, où là, il manquait cruellement de pavés, comme ça a été évoqué. Et à ce moment-là, il a fallu réfléchir à un autre parcours. Et ça a été la création de la trouée, la fameuse trouée de Valère-Saint-Rambert, et avec un vainqueur mythique, puisque c'est la première victoire d'Eddy Merckx en 68 sur le Vélodrome. Et ce parcours, depuis 68, est presque immuable. Alors, chaque année, il y a quelques petites modifications à la marge, vraiment, quand il y a, par exemple, des travaux dans quelques communes. Mais le parcours est fixé, et c'est ce qui fait, d'ailleurs, sa spécificité et sa renommée, parce que Paris-Roubaix doit rester en l'état. C'est un monument en lui-même. Et puis, c'est très important qu'on puisse présenter aux coureurs un parcours de cette qualité.
La musique de Vangelis, Conquest of Paradise, la conquête du paradis. Nous, on parle de l'enfer du Nord. Cédric Leroy, vous nous avez suggéré cette musique ô combien épique qui souligne d'une certaine manière, on parlait de blockbuster hollywoodien, qui souligne ce qu'est Paris-Roubaix, donc quelque chose de vraiment épique, dangereux peut-être même pour les coureurs, et c'est ce qui fait aussi sa mythologie.
Ah oui, ça peut être dangereux. Hein. On a quand même certaines chutes, dont celle de Muzeu à la sortie de la trouée de Vellers, où il a failli être amputé après à l'hôpital, enfin, où ça s'est infecté par rapport à sa rotule. Mais Conquest of Paradise, ouais, c'est on a quand même traversé l'enfer avant pour arriver au paradis qui est le Vélodrome. Hein. Faut s'imaginer qu'en fait, les secteurs pavés, comparés aux Flandres où ils sont beaux, on parle d'un beau pavé sur les Flandres, à Paris-Roubaix, les pavés, il y a des arêtes qui sortent, il y a dans la trouée, c'est des écarts entre les pavés de 3, 4, 5 cm des fois. Donc avec un pavé qui est 8 cm plus bas, un autre qui est 5 cm plus haut, on a coutume de dire que la trouée, c'est quand on passe, quand on roule dans la trouée de Valers, c'est comme si on vous mettait un coup de pied dans la roue avant à chaque mètre. Et pouvoir l'avoir faite à plusieurs reprises, c'est vraiment ça. Alors les pros ont une vitesse qui leur permet d'avoir un peu moins, de subir un peu moins ces tremblements et ces secousses. Mais c'est une lutte, oui.
C'est une lutte pratiquement à chaque mètre, à chaque kilomètre, à vous écouter. En tout cas, une lutte permanente. Je voudrais juste qu'on revienne à des basiques question de vocabulaire, Pierre Carré, si vous me le permettez. On a entendu Pascal Sergent parler de la reine des classiques, d'un monument pour le très grand public, si on définissait ces termes. Cédric Leroy, je crois, parlait des Flandres, donc le Tour des Flandres, qui fait partie aussi des monuments, juste qu'on situe bien. C'est quoi une classique? Pourquoi est-ce qu'on dit que Paris-Roubaix, en plus d'être la reine des classiques, est un monument? Vous nous faites ça?
Oh, mais peut-être que les Belges diront que la reine des classiques est le Tour des Flandres.
Alors, sans entrer dans cette polémique qui concerne la France et ses amis.
Deux courses jumelles qui se déroulent à quelques dizaines de kilomètres d'écart de part et d'autre de la frontière. Il y a des pavés aussi sur le Tour des Flandres, comme le soulignait Cédric Leroy, mais ce sont des pavés qui sont très différents. Et bon, la classique se déroule sur une journée, hein. C'est une tragédie grecque, hein, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Contrairement au Tour de France, ça, c'est 22 classiques bout à bout.
Où là, on a des étapes, et parfois des étapes qui ressemblent à Paris-Roubaix, parce que quand on passe dans le nord de la France, je referme la parenthèse.
Tout à fait. Et alors, monument, bon, ça c'est une conception un petit peu plus récente, des années 90, anglo-saxonne. On a pris 5 classiques et on a dit, voilà, ça c'est des monuments. Donc on y met dedans Milan-San Remo en Italie, on y met Paris-Roubaix, évidemment en France, on y met le Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège qui sont en Belgique, et enfin le Tour de Lombardie qui se déroule lui aussi en Italie. On dit que ce sont les 5 plus belles courses, ou les 5 courses les plus historiques, les plus dures à gagner, les plus prestigieuses.
Les plus anciennes aussi,
oui. Paris-Roubaix est plus vieux que le Tour de France de 7 ans quand même. Mais disons que Paris-Roubaix est certainement une des plus difficiles. Et vous savez, il y a des coureurs belges qui sont très prudents dans la presse belge. Ils disent non, le Tour des Flandres est la plus grande. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savent que le Paris-Roubaix est plus dur à gagner, peut-être, que le Tour des Flandres.
Puisque vous parliez des Belges, cette observation que j'ai faite en déroulant le palmarès depuis 1896, le palmarès est très européen. Dans Paris-Roubaix, le cyclisme est très européen et très franco-belge, le palmarès de Paris-Roubaix. En même temps, voilà, on est dans la région et il y a une tradition qui peut l'expliquer. Même si au XXIe siècle, ça s'est un peu ouvert avec deux vainqueurs hors Europe, à savoir deux Australiens. Et pourquoi pas imaginer un jour un Africain en palmarès. Après tout, notre Biniam Girmay Continental va en 2025 se confronter à l'enfer du Nord pour la première fois de sa carrière.
I'm super happy to announce I will do Paris-Roubaix 2025. For sure, it's one of the hardest monument races, and it's also super nice to discover and to have opportunity to race in this race. It's a super big honor for me, so I'm really looking forward to race my first world level Paris-Roubaix. So I'll see you there next week.
Ce que j'ai vu sur les recos, franchement, il m'avait l'air vachement à l'aise. J'étais même surpris parce que voilà, il a l'habitude des pavés maintenant en bosse sur les courses en Belgique, mais le voir là sur les pavés plats, il était quand même relativement à son avantage. Mais entre la reco et la course, c'est différent aussi. Et je pense que là, pour lui, c'est plus une découverte pour commencer avant de vraiment se fixer un objectif bien concret.
Biniam Girmay, à la fois dans ses propres mots et dans ceux de son coéquipier, le français Adrien Petit, qui fut l'index, si je puis dire, de RFI pour nous faire vivre le Tour de France de l'intérieur. C'était il y a 2 ans, 2023, l'index d'un certain Thomas de Saint-Léger. Bonjour Thomas.
Bonjour Hugo, bonjour tout le monde.
Thomas de Saint-Léger en direct de Compiègne, notre envoyé spécial sur Paris-Roubaix. Merci d'avoir patienté Thomas, vous avez peut-être pu écouter ce qui se disait sur notre plateau. Avec vous, on veut parler un petit peu de la Girmay Mania, je ne sais pas s'il y en a une à Compiègne, un peu hors de la région parisienne. On appelle ça Paris-Roubaix, mais ça ne part pas exactement de la région parisienne. Paris-Roubaix, la ville de départ, est-ce que voir arriver Biniam Girmay, c'est une petite sensation?
Ah, il n'a pas été non plus le plus applaudi des coureurs. Hein. Je ne vais pas vous survendre l'accueil de triomphal de Compiègne pour Biniam Girmay, mais il est identifié évidemment l'Érythréen du grand public maintenant après ses 3 victoires et son maillot vert sur le dernier Tour de France. Et évidemment, il y a une forme de curiosité à le voir débarquer sur cette course. Ça n'était pas à son calendrier. En tout cas, lui nous avait dit en janvier, non, pas pour cette année. Finalement, les plans éléments ont changé dans la formation Intermarché Wanty. Et Guirmay se présente donc ici à Compiègne pour le départ demain. Et vous l'avez un petit peu entendu dans les mots d'Adrien Petit et dans les siens également. Ce sera d'abord une découverte pour accomplir un rêve, parce que il le disait il y a quelques jours, Paris-Roubaix avec Milan-San Remo et avec le Tour de France faisait partie des courses enfants qui le faisaient rêver.
Pierre Carré, il a une chance, William Guirmay?
A priori, non. Mais par contre, il peut servir les desseins de son équipe. Il est l'un des deux leaders. Adrien Petit, que vous avez entendu tout à l'heure au micro, a lui participé 15 fois dans Paris-Roubaix.
Il a même terminé 6e une année.
Oui, et c'est l'homme du Nord. Et pourtant, il sera au service de Binyam Guirmay. Et il y aura un autre leader, un coureur belge qui s'appelle Lorenz Rex. Alors, Binyam Guirmay, lui qui est plutôt sprinter, devra forcer son talent et bouger. Parce que sur Paris-Roubaix, vous ne pouvez pas attendre. Au bout d'un moment, il faut boucher des trous. Vous savez, quand le peloton se casse en mille morceaux, il faut attaquer, il faut être aux aguets, et évidemment vous ne pouvez pas attendre le sprint sur vélodrome, c'est toujours dangereux, parce que encore faut-il pouvoir y arriver sur ce vélodrome et en un seul morceau. Alors ça sera une découverte, ou plutôt une redécouverte, car figurez-vous, oui, il y a déjà participé. C'était en 2019. C'était chez les jeunes, il avait moins de 23 ans, le Paris-Roubaix des moins de 23 ans, qui emprunte une bonne partie du parcours. Bon, je dois être tout à fait honnête, il a terminé 48e et il perd 14 minutes sur le vainqueur, un certain Tom Pidcock. Alors, il avait envie d'y revenir, là, chez les grands, chez les pros, et de voir ce que ça donne, parce que c'est intéressant, il sait que ça fait partie de la légende. Peut-être que sur un groupe avec une dizaine de coureurs, il peut aller chercher, pourquoi pas, une place dans les 10 premiers, ça serait déjà magnifique.
Je vais me tourner vers nos historiens, entre guillemets, notamment Pascal Sergent. Vous aussi, vous êtes à Compiègne. Je disais à quel point Paris-Roubaix donc, a une tradition plutôt franco-belge, la région, l'histoire du cyclisme, en tout cas dans son palmarès, ça s'ouvre un petit peu. Est-ce que ce serait... en tout cas, déjà, est-ce que ça vous fait plaisir de voir celui qui incarne aussi une sorte d'ouverture encore plus large du cyclisme, qui est vraiment la tête d'affiche du développement du cyclisme en Afrique, Binyam Guirmay, venir disputer... Paris-Roubaix.
Et c'est très bien. Ça s'appelle la mondialisation du cyclisme. Aujourd'hui, on a eu pour le Tour de France en 1983 l'apparition des Colombiens, et ça a été un apport considérable pour le cyclisme en général. Et donc aujourd'hui, nous avons ce type de coureurs qui viennent d'Australie, d'Afrique, des États-Unis, voire du Japon. Et ça, c'est vraiment très très bien pour le cyclisme. Alors maintenant, Binyam Guirmay, on connaît ses qualités. Il a déjà gagné Gent-Wevelgem, mais c'est quand même une semi-classique importante. Et donc, on sait qu'il a la capacité de pouvoir performer, notamment sur les pavés de Paris-Roubaix, même si, comme ça vient d'être dit, il sera en partie équipier. Et puis, au fil de la course, vous savez, Paris-Roubaix révèle toujours des incertitudes. On ne sait jamais. On peut être très bien à 2 minutes, comme Duc de Lassalle l'avait été d'ailleurs en 93 lors de sa deuxième victoire, à 2 minutes au terme du premier secteur pavé, et puis finalement gagner à Roubaix. Tout peut arriver sur Roubaix. C'est ce qui fait aussi sa légende et tout son environnement.
Binyam Guirmay, donc, qui va participer à son premier Paris-Roubaix. Il n'est pas la seule attraction, et l'attraction principale, elle nous vient plutôt de Slovénie. On va en parler juste après notre point actu sportif dans Mondial Sport.
Mondial Sport.
L'actualité hors cyclisme sur RFI avec vous, Baptiste Leduc, bonjour.
Bonjour Hugo.
Du football, des chocs un peu partout en Europe. On commence par où? On commence par qui?
On va commencer par la Ligue 1 en France avec un joli match entre Monaco et Marseille. C'est le sprint final. Là, c'est pas du cyclisme, mais ça reste un sprint pour le podium, pour les places européennes. Et pour l'instant, c'est Monaco qui prend le meilleur sur l'OM 2-0, alors qu'il reste un peu plus d'un quart d'heure à jouer. 2-0 pour Monaco. On va filer en Allemagne avec, là, c'est un vrai choc, hein, le classiqueur, comme on dit, Bayern Munich, Borussia Dortmund.
Oui, il y a des classiques en cyclisme comme en,
c'est ça, en,
comme
fait,
en football. C'est vraiment un terme qu'on galère.
Je reprends les termes du cyclisme pour parler foot. Le classique en Allemagne, donc Bayern Munich, Borussia Dortmund. Le coup d'envoi a été donné il y a à peine 5 minutes. C'est en Bundesliga, les Bavarois qui peuvent faire un grand pas vers le titre en Allemagne en cas de victoire. Et puis, on va aussi passer une petite tête en Angleterre, la Première Ligue, avec quelques résultats intéressants aujourd'hui. Manchester City qui s'est imposé 5-2 contre Crystal Palace après avoir été mené 2-0. Et puis Aston Villa, on surveille Aston Villa qui va jouer son quart de finale retour en Ligue des Champions contre le PSG. Ils ont préparé ce retour de la meilleure des manières. 3-0 contre Southampton, la lanterne rouge.
Aston Villa, PSG, mais t'as vu qu'on entendra ça, on entendra parler de ça sur RFI dans les prochains jours. Les amateurs de tennis vont vous féliciter, vous allez leur donner quelques nouvelles d'une belle demi-finale, Baptiste, qui vient de se terminer au Masters 1000 de Monte Carlo.
C'était entre Alex de Minaur et Lorenzo Musetti, et le deuxième, l'Italien, est revenu de nulle part. Il avait perdu la première manche 6-1. Il a gagné les deux suivantes, 6-4, 7-6. C'est donc lui qui ira en finale à Monte-Carlo demain contre Carlos Alcaraz, qui s'est qualifié un peu plus tôt contre Davidovich Fokina en deux manches, 7-6, 6-4. La finale, donc, c'est demain à 10h, temps universel. Elle a été avancée de quelques heures pour éviter une grosse tempête sur la Côte d'Azur demain.
Du basket pour terminer, Baptiste, pour refermer ce point actu. La balle, la Basketball Africa League, et le dernier week-end pour la première conférence de la saison régulière à Rabat, la conférence d'une île plus vraiment d'enjeu.
Oui, parce qu'on connaît déjà les deux qualifiés de cette conférence. Ce sont les Égyptiens d'Al Ittihad et les Nigérians de Rivers Hoppers qui s'affrontent en ce moment même avec donc en jeu la première place de ce groupe de 4. Et pour l'instant, c'est Al Ittihad qui prend le meilleur. On est dans le quatrième quart-temps, 91 à 68 pour les Égyptiens. Et puis à 18h en temps universel, il y aura le second match, Rabat contre le Stade Malien, avec comme petit enjeu, pourquoi pas, sauver l'honneur pour l'équipe de Bamako qui sont à 4 défaites en 4 matchs jusqu'ici.
Et qu'on avait mis à l'honneur dans Mondial Sport. Vous étiez à l'honneur également aujourd'hui dans Mondial Sport. On vous retrouve demain, Baptiste Leduc. Merci à vous.
Demain.
Ça va être magnifique, quoi. C'est un champion du monde en plus qui sort d'un Tour de France et tout.
C'est beau, c'est sûr que c'est beau. Ça fait plaisir de voir un coureur comme Pogacar au départ. Surtout pour nous, comme ça, on va le voir. Parce que d'habitude, on voyait Van Der Poel, Van Aert et Pogacar, on l'avait jamais vu. Donc c'est sûr que c'est bien.
On peut s'attendre à tout avec lui. On n'est pas sûr qu'il va totalement rater ou totalement gagner, on ne sait pas. On va pas rater de miette.
Lombardie, l'accueil de Compiègne pour le champion du monde, le vainqueur sortant du tour, Tadej Pogacar.
Non, chapeau, Coronès, hein, on va dire ça comme ça. Il faut venir hein, se mouiller là-dessus sur un monument pour un mec de grand tour. C'est juste énorme. Il l'a fait déjà à plusieurs reprises sur le Tour des Flandres. Paris-Roubaix, c'est encore un autre délire. Donc, non, c'est plutôt cool d'avoir un mec comme ça au départ. Par contre, oui, effectivement, ça va changer tous les plans et là, il va falloir s'accrocher, quoi.
S'il y va, c'est clairement pas pour apprendre.
Non, c'est clairement pas pour apprendre. Il a compris ce que c'était les pavés. Il connaît très bien son adversaire, Van Der Poel. Et je pense que c'est peut-être même quelque part une excitation pour lui de se dire comment je vais faire pour le battre. Mais il n'est pas avare de tactique en tout cas, et je pense que ses jambes vont bien répondre.
Autre événement sur le Paris-Roubaix masculin demain, Pogacar, Tadej. On sera pour la première fois de sa carrière, Thomas de Saint-Léger. Ça, j'imagine que ça crée l'événement, et c'est pas j'imagine, je l'ai entendu à travers toutes les personnes que vous avez interviewées et que nous avons eu l'occasion de partager avec nos auditeurs.
Ah oui, là pour le coup, c'est clairement l'attraction. Les personnes qu'on a entendues, c'est à la fois des personnes du public, donc des jeunes en l'occurrence du club de cyclisme de Compiègne,
et puis
un coureur professionnel de l'équipe Total Energy, Geoffrey Soupe, qui a plusieurs participations à son compteur à Paris-Roubaix. Donc c'est pour vous dire que ça touche tout le monde, cette participation de Pogacar à Paris-Roubaix. On a parlé tout à l'heure de la mythologie de Paris-Roubaix, des gueules noires. Parce que c'est vrai que les coureurs arrivent, il faut le dire, avec souvent le visage couvert de poussière ou de boue selon les conditions météorologiques. Et là, c'est un peu le cyclisme moderne qui va rencontrer le mythe dans son maillot blanc. D'ailleurs, c'est un joli contraste de champion du monde. Pogacar qui va pour la première fois à 26 ans se mesurer à ses pavés du Paris-Roubaix. Et c'est quelque part une anomalie. C'est très très rare de voir un vainqueur sortant du Tour de France aller sur ce terrain. Là qui est beaucoup plus favorable à des coureurs qu'on dit de type flandrien, donc des coureurs plus massifs, plus puissants que lui. Mais Pogacar dépasse les limites du cyclisme. Pogacar a un appétit d'ogre et il a envie de marquer l'histoire de son sport. Donc il avait envie de découvrir cette course. Il a entretenu avec son équipe le suspense sur sa participation ou non dès cette année pour finalement l'annoncer il y a quelques semaines. Et forcément, ça crée énormément d'attentes et d'excitation sur la course de demain, le scénario, le duel attendu avec Van Der Poel, qui est le grand spécialiste, qui est le double tenant du titre. Donc évidemment que tout le monde ici, d'ailleurs, je vous le disais, hein, les coureurs eux-mêmes en parlent, les directeurs sportifs des autres équipes en parlent. Ils sont presque plus intéressés par ce duel-là et par la participation de Pogacar que par celle de leur équipe. C'est assez cocasse.
C'est assez cocasse, en effet. Geoffrey Soupe, qui est un collègue plutôt qu'un coéquipier de Pogacar, pardon, ma langue a fourché. Cédric Leroy, auteur de Paris-Roubaix, la légende de l'enfer du Nord, des coureurs de la dimension de Pogacar qui viennent et qui vont même gagner, jusqu'à gagner Paris-Roubaix. Il y en a déjà eu dans l'histoire, non ? Des vainqueurs de grand tour qui se frottent aussi au pavé avec succès, je pense à Eddy Merckx ou Bernard Hinault.
Bernard Hinault, hein, je pense que c'est le meilleur exemple. Avec en 81, il a le maillot de champion du monde et il gagne Paris-Roubaix. Pourtant, dans sa bouche, Paris-Roubaix est une connerie. C'est ce qu'il
Pourquoi
disait.
C'était une connerie ? Parce qu'on pouvait se faire mal ?
Oui, parce qu'on pouvait. Et puis c'était pour lui absurde de passer sur des pavés et de faire 50 km de pavés sur 260. Voilà. Il aimait pas forcément cette course-là. Par contre, il l'a eu dans la tête. Il voulait la gagner pour prouver à tout le monde qu'il pouvait la gagner. Et il l'a gagnée. Voilà, avec une course épique, parce qu'il est tombé plusieurs fois, il s'est fait renverser par un chien, mais en même temps, il avait aussi toujours cette notion tactique, puisque dans le vélodrome, quand il aborde le vélodrome, il savait d'où venait le vent, il a lancé le sprint pour être devant, pour que les autres aient le vent, puissent pas venir à sa hauteur, revenir sur lui. Donc voilà, je pense qu'un Pogacar, à mon avis, ça fait quand même un petit moment qu'il s'essaie sur les pavés. Il n'a pas forcément eu de vidéo ou choses comme ça. Il a préparé quand même son affaire. Le Tour des Flandres est aussi une belle répétition. Ce qui va lui manquer, c'est peut-être l'expérience, parce qu'il y a le vent à gérer, parce qu'il faut savoir ce qu'on va affronter au secteur. Sur le secteur pavé, après, c'est quand même un énorme avantage. Van der Poel et Van Aert ont cet avantage.
Ce sont les trois grands favoris. C'est le podium. Après, on
ouais,
va
avec,
voir
avec Pedersen.
Dans quel ordre, c'est ça ?
C'est les hommes en forme. Après, voilà, on a aujourd'hui la démonstration avec Pauline Ferrand-Prévot. Qui est arrivé et pour une première participation et qui a gagné. Donc
c'est peut-être prémonitoire. Il y a eu effectivement un Paris-Roubaix féminin aujourd'hui, cinquième édition, remportée pour la première fois par une Française, Pauline Ferrand-Prévot, championne olympique en VTT cet été à Paris. Effectivement, j'imagine que c'était l'une des plus connues à prendre le départ aujourd'hui. Et finalement, c'était quoi ? Ses coups d'essai, coups de maître ? C'était son premier Paris-Roubaix, Pierre Carré ?
Oui, et puis elle est en quête maintenant de quelque chose de très fort. Il fallait qu'elle se trouve des défis à sa mesure après sa parade aux Jeux Olympiques de Paris. Donc Paris-Roubaix, pourquoi pas ? Elle avait plutôt annoncé, elle, le Tour de France. Mais pourquoi ne pas gagner Paris-Roubaix le Tour de France la même année ?
Est-ce que ça peut donner, alors justement, des idées à un certain Pogacar. Alors, deux questions. Déjà, j'ai lu qu'il était trop léger. C'est vrai que Laura parlait du vent. Alors,
c'est fini,
on
ça.
Lit partout qu'il est trop léger pour gagner Paris-Roubaix.
Ouais, il a la puissance voilà. Qui peut...
Et est-ce que l'attrait de Paris-Roubaix, la mythologie Paris-Roubaix, le pousse justement à s'y frotter ? C'est-à-dire qu'il faut, pour tout écraser, devenir la légende parmi les légendes, gagner Paris-Roubaix. Est-ce que ça veut dire ça aussi ?
Il fait 66 kilos. Son adversaire, on l'a dit, Van Der Poel, en fait 75. Mais ça va passer. Ça va passer. En plus, aujourd'hui, le matériel a un petit peu changé. Non, il va compenser. Il y a aucune difficulté de ce côté-là. Ça, c'était vous savez, les recettes de cuisine, c'est les vieilles règles, ça. Mais il a bousculé les vieilles règles, on l'a vu. Quand il a éclaté dans le cyclisme, Tadej Pogacar, il a réussi à renverser un Tour de France là où on ne l'attendait pas. Bien sûr, je parle de la planche des belles filles sur le Tour de France 2020, la veille de l'arrivée des Champs-Élysées. Il retourne, alors que d'habitude, ces scénarios-là sont figés. Non, c'est l'homme, au contraire, qui aime bousculer, qui aime faire trembler les statues. C'est un coureur qui est en train d'acquérir de l'épaisseur. professeur. J'ai cru au début que c'était une sorte de robot, une sorte de produit finalement d'un cyclisme très sport business, un cyclisme des Émirats Arabes Unis, des pétrodollars. J'ai cru que c'était finalement un jeune, puisqu'ils l'ont quasiment cueilli au berceau, vous savez, à l'âge de 18 ou 19 ans. Et petit à petit, je suis très étonné parce qu'il est en train de devenir un homme et maintenant... il est en train de se forger une sorte de légende. Il est en train de regarder l'histoire dans les yeux. Ce qu'il fait, c'est une forme de courage parce qu'il a beaucoup à perdre en réalité. Et il va dans quelque chose où il a beaucoup de coups à recevoir.
On va remercier Thomas de Saint-Léger, notre envoyé spécial sur Paris-Roubaix. Thomas, on vous suit demain, on vous écoute demain, on vous retrouve demain dans Mondial Sport. Merci à vous. Les autres invités restent, dont Pascal Sergent qui, lui, comme Thomas, est à Compiègne pour suivre demain le départ de Paris-Roubaix. C'est la ville de départ de Paris-Roubaix. Cédric Leroy, Pierre Carré sont également là. Et nous aussi, on va regarder l'histoire dans les yeux, l'histoire de Paris-Roubaix, loin du cyclisme bling-bling et moderne qu'incarnerait, selon vous, un certain Tadej Pogacar. Char.
Au Vésinet, 183 coureurs prennent le départ du 40e Paris-Roubaix, l'une des plus importantes épreuves cyclistes de l'année.
Au départ du Paris-Roubaix 1939, Émile Masson prévient son fils. Dans la traversée de l'enfer du Nord, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous.
Les grilles du château de Compiègne ne retiendront pas longtemps le flot des 180 coureurs de la plus ingrate, de la plus injuste des classiques. De Neuvilly au kilomètre 106, sectionné en petits tronçons, soit 48 km de sang, de pavés, de boue, bref, l'enfer du Nord.
Le vainqueur de l'édition 1968, Eddy Merckx, remporte son deuxième Paris-Roubaix. Il devance de 5 minutes et 21 secondes son rival Roger de Vinville.
Sur la place de la taille du sprint, sa dernière ligne droite, Inon devant Inon gagne 25 ans après Lison Bobet, victoire de Bernard Inon. On y croyait plus.
On va revenir sur l'histoire de Paris-Roubaix. On va remonter encore plus loin que les archives qu'on a trouvées. La télévision n'existait pas en 1896. Cédric Leroy, heureusement qu'il y a des livres comme le vôtre, celui que vous avez coécrit avec Christian Batteux, Paris-Roubaix, la légende de l'enfer du Nord. 1896, on a deux hommes d'affaires de Roubaix, un journal également, un journal en papier. Alors c'est pas le cycle, c'est le vélo à la baguette et puis 1000 francs pour le vainqueur. Ça se résume comme ça ?
Oui, bah c'était le début des courses dans ces années-là. Hein. Voilà, c'était plutôt comme le Tour de France, comme le Giro, que Pierre Carré connaît très très bien, le Tour d'Italie, puisqu'il a fait un très joli livre sur le Tour d'Italie. Et souvent, c'était les quotidiens sportifs qui mettaient ces épreuves-là.
Oui, le Giro, c'est la Gazzetta. Le Tour de France, c'est l'équipe.
C'est l'équipe. Et donc, voilà, c'est comme ça que naissaient beaucoup de courses dans ces époques-là. Et après, ça a perduré par rapport aussi à cette époque-là, le vélo, c'était quand même un sport de rustre. Hein. Fallait quand même être une brute, écraser les pédales et on pouvait gagner. Il n'y avait pas toute cette notion de tactique, d'équipe. C'était le plus fort.
Et la mythologie ouvrière, qui est celle du Nord, est aussi celle du cyclisme. Et elle se rencontre parfaitement avec Paris-Roubaix.
Ah, tout à fait. Tout à fait. De toute façon, le cyclisme est un sport populaire. Donc, ça colle les deux matchs vraiment parfaitement entre le cyclisme et...
Et les 1000 francs de prime pour le vainqueur, vous écrivez, ces 1000 francs, ce prix équivaut à 20 fois le salaire annuel auquel aurait pu prétendre, je crois que vous parlez d'Octave Lapisse, donc l'un des vainqueurs, 20 fois... son salaire en tant que livreur de charbon, rien qu'avec le prix de Paris-Roubaix, c'est 1000 francs. Je vous cite également, parler du tout premier Paris-Roubaix. Elle prend d'abord forme, cette épopée, à la brasserie de l'Espérance, où les champions se retrouvent pour se restaurer. C'est aussi un atelier pour les équipes de favoris. Ensuite, on migre de l'autre côté de la place, au café Gilet. On se tient le contrôle du départ. 5h25, la cinquantaine de concurrents sont vêtus de pull-over. Certains sont déjà en cuissard, d'autres ont gardé un bas de pyjama, parce qu'il peut faire froid. Tous portent une casquette de chauffeur de maître, ainsi que la moustache. Donc là, on est vraiment, on est presque chez Zola, si je puis dire.
C'est le début du cyclisme de compétition. Certains s'inscrivent à ces courses, mais sans vraiment avoir d'entraînement spécifique. Certains font une course, bon, ça reste des hommes forts. Bon, je pense que c'est comme ça qu'on peut les appeler, parce que c'est pas encore des sportifs professionnels, mais ça va venir après. Et mais ces hommes forts vont faire ce qu'est Paris-Roubaix aujourd'hui, en fait, et ce qu'est le Tour de France aussi aujourd'hui, parce que faut quand même,
c'est-à-dire que malgré les tactiques, la technologie, tout ce qui a pu faire évoluer le cyclisme, on reste fidèle, encore une fois, à cet esprit d'une course qu'on gagne avec d'autres qualités, si je puis dire.
Oui, alors c'était un cyclisme quand même d'une autre époque. C'était chacun pour soi et Dieu pour tous, et advienne que pourra même. Mais ouais, c'était autre chose. Aujourd'hui, on est dans la perfection. On parlait des vélos tout à l'heure. Oui, les vélos, certaines équipes vont avoir des vélos spéciaux pour Paris-Roubaix. On a vu des inventions sur Paris-Roubaix. L'équipe de Lemon et du Clos Lassalle avait des fourches télescopiques. Il y a eu des Bianchi, une marque italienne, avait inventé un vélo qui était à double articulation, qui n'a pas vraiment marché, et les coureurs n'étaient pas satisfaits. Mais
et là, on a le petit compresseur qui permet de gonfler les pneus.
Et cette année, voilà. Tout à fait, Pierre. Cette année, Pauline Ferrand-Prévot gagne quand même avec, sur la roue avant et la roue arrière, au niveau du moyeu, un petit compresseur qui permet de moduler la pression avant et après le secteur pavé.
Voilà, donc si vous êtes un peu bricoleur chez vous, là, vous avez des petits conseils éventuellement pour vous frotter au pavé. 122 éditions de Paris-Roubaix, et je reviens sur les débuts, assez vite, des interruptions à cause des guerres, de la Première Guerre mondiale, et puisqu'on parle d'une jeunesse ouvrière, d'une jeunesse ordinaire, eh bien des coureurs et des vainqueurs même de Paris-Roubaix vont tomber à l'occasion de la Première Guerre mondiale dans les tranchées. Vous y faisiez allusion, Pierre Carré, par exemple, on en parlait, Octave Lapize, premier triple vainqueur de Paris-Roubaix, tué lors de la Première Guerre mondiale, le Français François Faber, également Pascal Sergent. C'est à la Première Guerre mondiale, comme le disait Pierre Carré, qu'on doit cette expression en fer du Nord qui maintenant est associée à Paris-Roubaix. Et là aussi, on est dans une histoire globale, l'histoire de la France, de la région, de la jeunesse, de la France ordinaire, ouvrière et du sport.
Bien sûr. L'enfer du Nord vient effectivement de 1919, lors de la reconnaissance. Victor Breillard, un journaliste, et jeune Christophe qui parcourt l'itinéraire de Paris-Roubaix se retrouve face à un enfer, mais ce n'est pas l'enfer des pavés, c'est l'enfer de l'environnement, puisque on se retrouve avec des bas-côtés, avec des cratères de bombes partout, des maisons éventrées, des arbres qui sont complètement décapités. Et donc, Jean-Christophe se dit, voilà, c'est l'enfer, mais il ne s'agissait pas de pavés du tout. Et c'est un cyclisme à cette époque, comme Pierre le précisait tout à l'heure, qui est en train de se construire. Rien n'est réellement bien défini, ni les journaux qui sponsorisent déjà, qui organisent déjà les premières épreuves, ni les équipes cyclistes, les grandes marques, Cleveland, la Française Diamant, tout est en train de se mettre en place.
Je vais également continuer de suivre ce fil historique qu'on peut suivre en tant que lecteur dans le livre coécrit par Cédric Leroy, Paris-Roubaix, la légende de l'enfer du Nord, et dépasser donc cette Première Guerre mondiale. On appelle Paris-Roubaix l'enfer du Nord. Henri Pélissier, lui, survivra à la guerre avant de remporter deux fois Paris-Roubaix. Je parle sous votre contrôle. Et alors, il est impliqué, si je puis dire, à l'origine de l'article d'Albert Londres, qui lui aussi va mettre en place une autre mythologie autour de Paris-Roubaix, une autre expression, si je puis dire, une autre périphrase. Les forçats de la route, c'est le titre de l'article d'Albert Londres, Pierre Carré, et c'est une expression qu'on associe aussi à Paris-Roubaix, les forçats de la route.
Alors, c'est une expression qui vient du Tour de France 1924. Et en réalité, c'est l'éditeur d'Albert Londres qui a trouvé cette expression-là. Elle avait été inventée un petit peu avant, mais elle était popularisée, c'est vrai, par les Pélissiers. Pélissier, quand il gagne Paris-Roubaix, il a cette citation, il dit « c'est pas une course, c'est un pèlerinage ». Donc, il y a une dimension sacrée. Sacrée, déjà, il faut savoir qu'au début, Paris-Roubaix se déroule le jour de Pâques, que le clergé est hostile et dit « mais on ne peut pas lancer des coureurs sur le chemin sans qu'ils aient communié, il faut qu'ils aient une messe le matin ». Et donc, c'est une sorte de rituel païen. Mais c'est aussi autre chose, on va chercher une souffrance. Et encore aujourd'hui, on est travaillé par cette idée-là, c'est-à-dire qu'une fois dans l'année, les coureurs consentent non seulement à un effort qui est très difficile, mais ils acceptent d'endosser un rôle sacrificiel. La liste à la fin d'un Paris-Roubaix, encore aujourd'hui, est longue de fractures, de ce qu'on appelle les démarbraisons, joli nom pour dire finalement qu'on s'est arraché beaucoup de peau. C'est une course où il y a beaucoup de casses humaines. Et alors qu'on parle de sécurité toute l'année, que les coureurs sont de plus en plus évidemment sensibles et en colère contre la mise en danger de leur corps sur beaucoup d'épreuves cyclistes, une fois par an, ils acceptent de rentrer dans la fameuse tranchée d'Arenberg dont on a parlé, à 65 à l'heure. Et alors là, voilà, tout peut arriver. Et souvent, des chutes, il y en a au moins une par an qui est très sévère.
Donc, on est dans cette dimension sacrificielle.
Les forçats sont toujours là.
On est dans cette dimension sacrificielle, Cédric Leroy. C'est un terme que vous, que vous employeriez également.
Tout à fait. Et en tant que lieu sacré, les douches. Les douches sont un lieu sacré.
Les douches du vélodrome.
Les douches du vélodrome.
Après l'arrivée.
En pierre. En pierre.
Il y a une mythologie là aussi.
C'est l'ambiance, c'est l'atmosphère des mines qu'on peut retrouver au site minier de Valers, où il y a eu l'arrivée du Tour de France il y a quelques années. Et les douches, pouvoir les visiter, c'est quelque chose de. Il y a les plaques des vainqueurs, les coureurs s'attachent à aller prendre leur douche. C'est quelque chose qui participe aussi à la légende. Il y avait un coureur qui disait « Je n'ai pas abandonné par respect. Paris-Roubaix est un monument que l'on doit honorer. » Mais c'est aussi c'est finir Paris-Roubaix et aller prendre sa douche, même s'il n'y a plus d'eau chaude, parce qu'on est loin derrière et on est arrivé en retard. Et voilà. Mais tant pis, on a de l'eau froide, mais on aura été se laver et pour garder le fil rouge religieux, excommunier la boue et la douleur dans les douches.
Bon, puisqu'on est dans une sorte de métaphore filée religieuse, je vais laisser peut-être le mot de la fin à une sorte d'autorité suprême, Pascal Sergent, qui, ça ne s'invente pas, nous parle. On n'entend que votre voix, vous êtes un petit peu en surplomb de cette émission, puisque vous êtes à distance par rapport à notre
absolument.
Studio. Vous, l'auteur de référence, le président des Amis de Paris-Roubaix, tout simplement, une question très simple pour finir. Vous le sentez comment, ce cru 2025, cette 122e édition du Paris-Roubaix chez les hommes?
Écoutez, on aura avec l'apport de Tadej Pogacar une course extraordinaire. On retombe quelque part un peu dans un cyclisme flamboyant. On a ces coureurs aujourd'hui qui n'hésitent pas à partir à 50, 60, 70 km de l'arrivée, que ce soit Tadej Pogacar, mais bien sûr aussi Mathieu Van Der Poel. Puis il ne faut pas oublier d'autres prétendants comme Mats Pedersen, Philippe Ogana ou peut-être, pourquoi pas, Wout Van Aert. Et on se retrouve un peu dans un cyclisme des années 75 où on peut faire le parallèle avec le duel Roger de Vlaeminck et Eddy Merckx. Roger de Vlaeminck, le spécialiste de la course, quatre fois vainqueur, qui ne voulait absolument pas laisser la place à Eddy Merckx. Et face à lui, le fameux Eddy Merckx, qui lui est un géant, un peu à l'image de Pogacar. Donc on retombe un peu dans ce schéma des années 60-70 avec un coureur spécialiste, déjà vainqueur, qui connaît tous les codes, le parcours, qui a une bonne équipe, qui connaît exactement le sens du vent, et un Pogacar qui découvre tout, mais qui risque peut-être finalement de bouleverser et de renverser la table.
Bah écoutez, vous nous l'avez très bien vendu, comme on dit, ce Paris-Roubaix qu'on ne peut pas vendre, dont l'esprit n'est pas à vendre.
Absolument,
si je vous suis bien, merci beaucoup Pascal Sergent, merci
grand plaisir.
Cédric Leroy, merci Pierre Carré. Paris-Roubaix, on y reviendra demain, en tout cas on vous donnera le résultat de la course homme, et puis on remercie Hélène Avril, Assetou Samaké et Mondial Sport qui est à retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. Tout de suite, Géopolitique.